sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 26 novembre 2003, le peintre Zhao Wuqi était reçu sous la coupole de l'Institut pour être installé au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Canal Académie vous propose d'écouter l'intégralité de cette cérémonie, au cours de laquelle vous entendrez, après l'ouverture, le discours d'accueil de Roger Taillibert. Mais qui êtes-vous, monsieur Zhao Wuqi ? Puis le discours de Zhao Wuqi en hommage à son prédécesseur, le peintre Jean Carzou. Zhao Wuqi avait demandé à son ami peintre Arnaud Dautrive, alors secrétaire perpétuel de l'Académie, de prononcer à sa place le discours d'éloge qu'il avait préparé en hommage à Jean Carzou. Retrouvez-les sous la coupole.
La séance est ouverte. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour la réception de monsieur Zhao Wuqi, élu membre de la section de peinture à notre académie, le 4 décembre 2002, au fauteuil précédemment occupé par notre regretté confrère Jean Carzou. Notre perpétuel va dire...
Je me permets de porter à votre connaissance le fait que monsieur le ministre, devant s'absenter, nous quittera au milieu, malheureusement, de la séance, ce que nous regrettons vivement et nous le remercions de sa présence aujourd'hui parmi nous.
La parole est à monsieur Roger Taillibert.
Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, mesdames les ambassadrices, mesdames, messieurs, en parlant de Zhao Wuqi, je me pose la question, mais qui est-il ce Zhao Wuqi? Eh bien, je vais essayer de vous le décrire. Vous êtes né le 13 février 1921 à Pékin, au sein d'une famille de grands lettrés chinois appartenant à la famille Cao, de la très ancienne dynastie Song, qui s'est perpétuée du 10e au 13e siècle après Jésus-Christ, Wuqi étant votre prénom. Chaque année, vous aviez coutume de célébrer l'anniversaire de vos célèbres ancêtres, le roi Hirondelle et le roi Rossignol, frères de l'empereur, devant le trésor familial exposé. De 1921 à 1931, vous faites de brillantes études primaires et secondaires, puis vous déménagez à Hangzhou, près de Shanghai, où votre père est banquier. Très tôt, vous vous passionnez pour l'histoire de la Chine et du monde. Vous vous exercez au dessin et à la peinture. Votre père vous admire, tandis que votre mère se montre hostile à vos barbouillages. En 1938, vous entrez à l'école des beaux-arts de Hangzhi, où vous suivez pendant 6 ans des études de dessin d'après les plâtres et modèles vivants. Mais ni l'enseignement de vos professeurs chinois, ni celui des professeurs détachés de l'Académie royale de Belgique ne vous conviennent, tandis que toutes les informations en provenance d'Europe vous appellent vers une peinture très différente. Votre père sera le premier client de votre première exposition à Chongqing, où vos œuvres se révèlent fortement inspirées par Picasso et Matisse. Vous accordez une attention particulière à collectionner les cartes postales d'œuvres de peintres occidentaux, considérant que Cézanne et Matisse se situent proches de votre tempérament. Vous passez de longs moments à étudier leurs œuvres. C'est sur leur mémoire que vous allez construire votre route de l'avenir. En 1942, vous organisez à Chongqing une exposition au Musée national d'histoire naturelle, où sont présentées entre autres des œuvres de Ling Formien, de Wu Taiyu, votre directeur à l'École des Beaux-Arts. Cette exposition est la première à présenter des artistes vivants qui veulent rompre avec la tradition. En 1946, les Japonais vaincus évacuent le pays, ce qui permet de rétablir les lieux d'études en Chine. À 17 ans, vous vous mariez, vous exposez à Shanghai et vous décidez de partir pour l'Occident en 1948, insistant auprès de votre père, à qui vous déclarez n'avoir fait jusque-là qu'un apprentissage de la peinture. Vous arrivez à Marseille avec votre épouse, après 36 jours de bateau, il vous appartient désormais d'y tracer votre voie. Vous découvrez Paris le 1er avril au matin et le musée du Louvre vous attire tant que vous y passez tout l'après-midi. L'atmosphère de Montparnasse vous ensorcelle. La compagnie des grands peintres vous est acquise. À vous l'oriental. C'est à l'Alliance française que vous apprenez le français, ce qui vous permet de fréquenter avec enthousiasme et gaieté, de 1946 à 1950, tous ces artistes qui arrivent à Paris. Jean-Paul Heuriopel du Canada, Pierre Soulages, Sam Francis, Norman Bloom, Hans Hartung, Nicolas de Staël. Mais nous savons tous que votre lieu de rencontre favori est alors la galerie Nina Dossé, rue du Dragon. Durant votre séjour prolongé en France, vous créez un cercle d'amis parmi les artistes les plus connus dans cette France, qui va devenir votre patrie. Vous cultivez l'amitié car vous avez besoin de cette harmonie avec le monde extérieur. Henri Michaud, peintre et poète, vous aide beaucoup de son amitié profonde et sans restriction. Avec Claude Roy, il est pour vous l'un des deux piliers qui soutiennent votre implantation en France. Vous retrouvez la joie de la reconnaissance quand le jury, présidé par Lotte et Gromère, vous décerne un premier prix de dessin. C'est en 1950 que le marchand Pierre Loeb, conduit par l'écrivain Henri Michaud, vient visiter votre atelier qu'il quittera d'ailleurs sans un mot. 3 mois plus tard, il reviendra vous acheter 11 tableaux. Et vous continuerez à travailler avec lui jusqu'en 1957. Mais votre curiosité insatiable vous guide en Suisse, où vous faites la connaissance des œuvres de Paul Klee, dont la sensibilité vous impressionne, car son œuvre est en fait influencée par l'art de la calligraphie chinoise. Puis, vous parcourez l'Italie, la Toscane et Venise. C'est en 1953 que vous réalisez le décor d'un ballet de Roland Petit, intitulé « La Perle », sur un argument de Louise de Villemorin. Puis c'est de nouveau la Suisse, pendant votre long séjour, les peintres de l'école de New York, avant de retourner à Paris en compagnie de Pierre Soulages. Votre soif de connaissance vous entraîne vers Washington, Chicago, San Francisco, Hawaï, le Japon et Hong Kong, où vous faites la connaissance de votre seconde épouse, May. Fin 59, vous vous installez définitivement à Paris, vous achetez un vieil entrepôt, rue Jonquois, que vous faites transformer en atelier. En 1962, vous faites la connaissance d'André Malraux, dont le soutien vous permet d'obtenir la nationalité française, et de Claude Roy, qui réédite votre monographie. Sur le conseil d'Henri Michaud, vous découvrez la difficile technique de langue de Chine à laquelle vous vous abonnez désormais chaque été. En 72, après le décès douloureux de votre épouse, vous décidez de retourner en Chine que vous n'avez plus revue depuis 48. Ce voyage sera suivi de deux autres, en 74 et 75. De 76 à 77, après une longue période d'interruption, vous produisez énormément d'œuvres, dont surtout de grands tableaux, comme cet hommage à André Malraux, exposé à Tokyo, ainsi que 14 autres de vos toiles. Puis, l'amitié occupant toujours une grande place, vous vous rendez à New York, revoir vos amis, M. Pei, ici présent, Sam et Joyce Kutz, avant de vous rendre à la Villa Médicis à l'invitation de M. Jean Lemarie à l'occasion de la remarquable exposition consacrée à Nicolas Poussin. En 78, vous faites la rencontre du baron et de la baronne Thyssen-Bornemisza lors de la présentation de leur collection au musée d'art moderne de la ville de Paris. Une de vos toiles majeures rejoint leur collection dans leur villa de Lugano. Vous poursuivez votre périple vers Madrid et Barcelone où vous exposez également. C'est pour vous l'occasion de rencontrer Georges Duby, qui devient fidèle ami parmi les fidèles. Vous enchaînez sur une exposition à New York à l'initiative de Pierre Matisse. Puis vous vous retrouvez à Taipei où vous rencontrez le grand maître Chang Ta-ching peu de temps avant sa disparition. À l'automne 1984, vous exposez des lavis à la FIAC. En 85, vous vous rendez à Singapour, à la demande d'I.M. Pei, afin d'y admirer sa dernière réalisation, Raffles City, pour laquelle vous réalisez un curieux triptyque. C'est également au cours de cette année qu'invité par votre ancienne école, vous resterez en Chine, accompagné de votre épouse Françoise Marquet, conservateur des musées de la ville de Paris, qui sera entièrement dévoué à votre réussite de par son dynamisme. Puis ce sera une succession d'expositions à Séoul, Tokyo, Genève et Luxembourg. Promu commandeur de la Légion d'honneur en 1913, M. Jacques Chirac, alors maire de Paris, me remet aussi la médaille de vermeil de la ville. Puis ce sera Mexico et New York en 1994, où le jury vous nomme lauréat du Premium Imperial Award de Painting du Japon, qu'Henri Dutilleux recevra pour la musique, Richard Serra pour la sculpture et John Gielgud pour les arts de la scène et Charles Correa pour l'architecture. Encore d'autres expositions au Portugal, à Taïwan, en Espagne et un nouveau voyage en Chine avec Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac. Pour finir de 2000 à 2003, vous exposerez à Tokyo, au Petit Palais, à Bruxelles, à Chenonceau, à Helsinki et à New York. Et maintenant, nous pouvons admirer votre magnifique exposition au Jeu de Paume. Quel parcours mais votre volonté a su montrer votre talent au monde entier. La vie de Zhao Wuqi est une très longue, trop longue histoire pour vous la conter en si peu de temps. Et je souhaiterais surtout vous faire découvrir sa poésie philosophique. La Chine, peuple de géants, dont l'histoire est multimillénaire, se dévoile à travers votre œuvre. Vous avez choisi la France pour être votre patrie. C'est aussi le pays qui vous a permis de conquérir le monde entier grâce à votre talent. Issu d'une famille bourgeoise, vous avez vécu toute la fin de la période du gouvernement de Chiang Kai-shek. Votre père considérait que Mao, en dépit de son obédience communiste, était le seul à même de rétablir l'ordre dans ce pays qu'il adorait. Mais par la suite, il eut à subir des vexations et des humiliations telles que le port d'un déguisement provocateur pour circuler dans la rue sous les colibets de ses employés. Votre père s'est donc éteint sans que vous ayez pu le revoir. Lors de votre premier voyage, marquant votre retour en Chine, vous revenez à Shanghai afin d'y revoir la propriété de vos parents pillée par les gardes rouges, car vous voulez, quoi qu'il vous en coûte, revoir votre pays. Vous retournez à l'école des beaux-arts de Hangzhou, dont vous avez été désigné professeur d'un art que vous aimez passionnément, la peinture. Qu'Alfred Manessier a défini dans une lettre qu'il vous avait adressée, ce langage pour les infirmes de la communication que nous sommes. L'Occident vous a offert les impressionnistes, Picasso, Matisse, Miro, mais vous ne pouviez alors approcher leur œuvre que grâce aux reproductions que vous trouviez dans les livres que vous consultiez à Shanghai. Un jour, à des amis, vous avez confié votre pensée profonde. « Je ne suis pas, je deviens ». Au moment où vous cherchez, vous êtes déjà ailleurs. Par exception, étant donné le moment solennel qui nous rassemble aujourd'hui, je vous demanderai pour une fois de bien vouloir rester avec nous sous cette coupole et de conserver cet habit vert le temps de la séance. Après, vous pourrez rejoindre cette immortalité à laquelle nous vous convions. Mais pour l'instant, sous prétexte de vous décrire à vous-même, il importe que j'essaie de vous révéler aux autres, puisque, comme vous le dites vous-même, je n'ai jamais su parler de ma peinture, je n'y tiens pas non plus, je ne cherche pas à l'expliquer, ce qui compte, c'est uniquement le tableau. On se récriera, votre nom est trop connu, votre nom à coup sûr, mais votre œuvre. Mais vous-même, vous êtes, il est vrai, un de nos peintres contemporains parmi les plus connus. Aujourd'hui, les actions publicitaires vous transforment en acteur des actions médiatiques au risque de troubler la gent artistique. Vous avez déclaré à l'un de vos amis, « Je crois que tous les peintres sont réalistes pour leur compte. Votre peinture nous projette de toile en toile dans un monde jamais ouvert aux hommes. » C'est Pierre Dex qui avait dit cette phrase. « Que découvre-t-on dans votre palette ? La joie, la tristesse, la mélancolie ? Les étroites relations des couleurs que vous laissez s'épanouir avec une transparence personnelle dont la conquête vous appartient. Transparence qui porte l'émotion dans l'âme, vous analyse en acceptant toute votre sincérité. Mais c'est le bonheur ou le malheur qui vous habite au quotidien dans les relations personnelles que vous entretenez avec les pinceaux, la toile et les couleurs. En examinant vos tableaux, vous révélez une richesse de toutes les couleurs, faisant découvrir votre plaisir et votre joie. C'est votre vie intérieure qui vient vers nous. Vous avez franchi toutes les frontières, espace et surface, éclate dans le feu du soleil d'où jaillit la beauté. Une beauté attachée à la vue et à la sensibilité des hommes qui vous auscultent. Admirateur sans restriction de Matisse, et plus particulièrement de la porte-fenêtre à Collioure, vous reprenez les lignes de la calligraphie de Klee. Bien Klee était formé à l'école de la calligraphie chinoise, pour vous, cette porte-fenêtre constitue une peinture magique, vous éloignant de la géométrie, aux accents lunaires, nous trouvons ici un poète d'œuvre picturale. Votre œuvre subit les deux influences majeures qui l'ont marquée, l'Orient et l'Occident. Pourtant, vous êtes un peintre tout à fait universel et profondément chinois tout à la fois. Je citerai de Bernard de Rival, comme beaucoup de jeunes artistes étrangers qui affluèrent vers Paris, le plus merveilleux, c'est qu'en y recevant des leçons françaises, ils ne laissent pas de rester ce qu'ils sont, voire de mieux devenir, les fils de leur pays natal et les héritiers de leur culture que tous les enseignements, ainsi s'en alla-t-il, de Zhao Wuqi. Votre tentation de l'Occident s'est traduite par la voie de la peinture à l'huile que vous avez choisie, qui était techniquement étrangère à la peinture chinoise. Cependant, vous demeurez un peintre oriental car vous respectez malgré tout l'art sacré chinois et assumez l'oubli de soi dans son œuvre, ce qui me paraît essentiel pour un peintre. On retrouve dans toute votre œuvre à la fois intelligence, émotion et vibration, c'est-à-dire la poésie et la beauté. Chez vous, la première fonction de l'art est évidemment de produire la beauté puisque c'est sa définition. Et la beauté étant une finalité sans fin, n'a d'autre but qu'elle-même. Elle est une pure gratuité et une infinie liberté. Elle ne doit rien à personne et ne demande rien d'autre qu'elle-même. L'art est un jeu désintéressé qui se justifie par sa beauté. Mais vous savez que c'est un luxe totalement inutile dont l'homme ne saurait se passer pour continuer à devenir ce qu'il est. Votre art est un divertissement dont l'essentiel est la séduction. Votre attitude de l'esthétique est une loi originale et je suis sûr pourtant que vous tenez à conserver votre autonomie. L'art est produit par l'homme et il doit le servir. Le principe de la vie est dans l'art. Nous savons tous que vous avez parfaitement compris que l'art, c'est avant tout la vie concentrée. Produit de l'homme, il porte d'abord témoignage sur la nature de l'homme pour échapper à la cruelle nécessité et pour s'offrir le luxe de l'inutile. Vous avez révélé que le beau se ramène à la pleine conscience de la vie. Là où il y a sentiment d'une vie plus facile, il y a beauté. L'art, c'est la prise au sérieux de la vie. Pour Malraux, l'art est une fonction essentielle de la vie qui est de révéler à l'être humain sa grandeur et sa dignité. Venant de l'Orient et vous fixant en Occident, vous avez compris que l'art est un facteur de communication irremplaçable à travers la beauté. Vous nous montrez ainsi l'immortalité de la beauté dans votre abstraction lyrique. Vous avez aussi soustrait au temps quelque chose. Mais dans ce monde où prédomine la division des peuples, vous démontrez que l'art est le plus court chemin d'un homme à un autre, c'est-à-dire un pont entre les nations. En fait, puisque la beauté est une finalité sans fin, vous considérez, comme tous les grands artistes, que la première fonction de l'art est de produire la beauté. Mais à mon avis, il est de pure gratuité et infinie liberté. Rien n'échappe à ce lyrisme qui vous est propre. Alors, à ce moment précis, vous pouvez jouer un jeu désintéressé qui se justifie par sa beauté. Et pourtant, en pénétrant votre rêve, personne ne peut dire que c'est une luxuriance inutile. Mais aujourd'hui, je vous affirme que l'homme ne saurait se passer de votre riche talent. Dans sa part d'éternité, l'homme permet de dire, avec André Malraux, que l'art est une fonction, celle de soustraire au temps quelque chose, de suggérer le monde, au regard duquel toute réalité humaine n'est qu'apparence. Dans l'hommage rendu à notre ami Henri Michaux, vous déclarez que la peinture est une lutte entre la toile et vous. Mais cet hommage apparaît comme tourmenté, dans une effervescence de feu insoutenable pour le regard. Dans l'hommage, André Malraux, c'est aussi la plénitude, malgré l'orage que représente le tumulte de l'homme au cours de sa vie, mais aussi son combat pour atteindre le secret de la vie éternelle. Vous avez su traduire la conviction de l'homme par la continuité des couleurs, confronté à l'adversité que lui a réservée la vie politique. Un des premiers triptyques que vous avez dédié, toujours en hommage à Henri Michaux, évoque le rêve, mais aussi l'écrit, une pensée ouverte, puisqu'elle quitte le cadre pour s'évader vers les profondeurs de la pensée de ce grand ami. Il est temps, à présent, de pénétrer avec vous dans votre domaine, l'art de peindre, qui est l'essence même de votre être profond. Quelle que soit la diversité apparente que vous lui prêtiez et le renouvellement des aventures qui s'y déroulent, nous savons bien que le cadre en est un monde unique. Pour y parvenir, il nous faudra nous écarter de la route connue, laisser s'étreindre derrière nous les bruits de la vie, car il n'y a pas de création possible sans des conditions favorables à son éclosion. Alors nous trouverons un poète, un très grand poète de la couleur, tandis que le très grand mystère qui limitait notre pensée s'évanouit. Ce véritable château d'ombre ne vous quitte jamais, comme l'amitié profonde qui vous guide. Dans ce domaine qu'est la fiction, plus que dans le but tout autre, se vérifie le pouvoir du créateur en révélant la qualité inconnue, celle de ce monde unique. Ces modes de la poésie et de l'art, vous les jugez plus différents les uns des autres que ceux qui coulent vers l'infini. Cet univers poétique n'a pas de limite. Qu'il s'agisse de l'éclairage, des couleurs, des rêves, nous trouvons ici votre propre pensée. Cette œuvre que je crois majeure parmi les peintres contemporains, comme l'affirmait Henri Michaux, peintre et poète, qui fut le premier à faire votre rencontre à votre arrivée en France et qui perçut tout de suite votre talent. Dans la lecture de Zhao Wuqi, il a rassemblé 8 poèmes qui pourraient surprendre s'agissant d'un peintre résolument abstrait. Claude Roy nous le confirme en déclarant « La peinture de Zhao Wuqi est indéfiniment lisible. Vous y peignez votre vie. Vous cherchez aussi à peindre un espace invisible, celui du rêve, d'un lieu où l'on se sent toujours en harmonie. Même dans ses formes contradictoires, vos tableaux, du plus petit au plus grand, sont et seront toujours un espace de rêve. C'est une atmosphère riche de la jeunesse, de l'homme adulte et de l'homme construit. C'est l'univers des peintres sombres, celui de Cézanne, de Turner ou de Klee. Chez notre ami, aucune surface superficielle. Vous avez toujours l'impression que vous êtes face à une révélation ou qu'elle est imminente et interminable. Pour vous, il n'y a pas de plus grand bonheur que de le partager au risque de se rassembler. Vous qui, puisque c'est ainsi que nous l'appelons familièrement et de par sa peinture, plein de connivence avec les poètes. Vous ne renouez jamais véritablement avec la tradition, ce profond changement qui vous éloigne de l'école chinoise est volontaire de votre part. En effet, vous êtes un artiste puissant qui exprimait votre volonté en vous acharnant à représenter l'invisible par la couleur. Mon cher Wuki, vous êtes aussi un perfectionniste. Pour vous, la toile reste un devenir. Pendant de longues périodes, l'art que vous vous êtes choisi n'étant rien commercial, il doit s'inscrire dans le temps et la perfection. C'est la raison pour laquelle vous avez d'ailleurs décidé en 58 de ne plus donner de titre à vos tableaux. Vous inscrivez seulement au dos la date à laquelle vous estimez qu'ils sont terminés. Votre sérénité asiatique, toujours pleine d'ironie, ne manque pas de références occidentales. Cependant, l'héritage des Tang et des Song demeure pour vous la plus riche au monde. On ne décèle pas chez vous de véritables influences, mais plutôt une sorte de compétition entre elles. La diversité de vos chefs-d'œuvre n'est pas seulement remarquable, car si vous êtes avide de vous étendre et de sans cesse vous renouveler, vous n'entendez pas pour autant vous égarer, ni même vous compromettre. Pour vous, l'homme doit être constamment celui qui éveille l'énergie, mais n'en est jamais la victime. Votre intelligence cherche des panoramas, tandis que votre sensibilité personnelle adore les transparences tumultueuses, cadrées. Les rayons de soleil les plus riches vous guident dans votre poésie. Si l'on se reporte au texte de Goethe, en qui nous voyons le modèle de la richesse et de l'équilibre humain, je reste toujours pareil à moi-même. Au sein de mes innombrables métaphores, les branches trop multiples ne sont un danger que si le tronc est fragile. Tel n'est pas votre cas. Votre imagination ne veut rien perdre de la densité de vos rêves. De même que votre intelligence n'entend négliger aucun des appétits de sa curiosité. Il me semble qu'il faut aussi tenter de dégager l'âme qui relie tous les aspects de votre vie et de votre œuvre. Seul celui qui reste au ras de terre vous accuse de dispersion. Jadis, au temps où l'on appréciait les vues dégagées, on appelait cela être humaniste et cela était flatteur. Aujourd'hui, cela paraîtrait sans doute désuet ou dépassé à notre assemblée. Si Paul Valéry a qualifié Paris de creuset où se fondent toutes sortes de singularités et valeurs de la richesse humaine, c'est probablement aussi votre choix. En fait, depuis que Richelieu fonda l'Académie française et qu'elle fut rejointe plus tard par ses sœurs les autres académies de l'Institut de France, bastion impérissable de la connaissance tient à valoriser l'art de la parole et de l'écrit, de tous les autres arts et des sciences. Dans cette très grande famille constituée par les académies d'hommes illustres, de toutes les disciplines, la peinture en fut bien sûr une conscience. Aujourd'hui, notre pays s'enfonce dans la peur et la fuite des cerveaux. Avec le brillant talent qui a exprimé dans son ouvrage « Adieu à la France qui s'en va », Jean-Marie Roy nous trouble tous, mais vous, monsieur, qui nous rejoignez, vous apportez le défi à cette ombre. À l'œil averti, la Chine est le pays le plus représentatif dans l'art de la calligraphie. L'art chinois constitue aussi un art double. Celui de la calligraphie et de la peinture. François Cheng, ici présent, définit l'artiste oriental et rejoint l'Occident tout en précisant que deux maîtres de la peinture vous ont influencé, Cézanne et Paul Klee. Zhao Wuki a regardé Paris, il y vit. Il s'est ancré en France. Depuis 1968, le monde artistique a été complètement bouleversé, voire dénaturé par une formation artistique véritablement délabrée. Aujourd'hui, sans but déterminé, aucune des formations d'art plastique n'est respectée. Bien au contraire, elles sont associées au monde obscur du code des marchés publics, dont la poésie ne sera jamais reconnue dans l'antilibéralisme de ses règles administratives. Essayons malgré tout, ensemble, de retrouver une véritable France, où vous-même avez démontré par votre talent cette présence de Paris dans le monde artistique tel que le concevait Paul Valéry. Mais enfin, pourquoi êtes-vous venu en France, et justement à Paris ? Il en est pour vous, comme beaucoup d'artistes, Paris, ce laboratoire et ce sanctuaire de l'art contemporain, fut votre dernière escale. Et je ne crois pas que l'on puisse ailleurs qu'à Paris mener en toute liberté et en toute quiétude l'existence d'un rêveur éveillé tel que vous, si souhaité et si rarement accordé ici-bas. Vous n'aimeriez pas autant Paris si cette ville n'était pas pour vous qu'une étape vers d'autres ailleurs, vers le passé comme vers le lointain. Mais tout ce qui enrichit, parce qu'il est autre et qu'il nous éveille à d'autres nous-mêmes, je ferai encore ici appel à Marcel Proust pour vous convaincre, dans la réponse à son fameux questionnaire, partout où je me sentirai heureux, car si vous avez besoin de peindre, vous avez aussi besoin de vous sentir protégé du monde extérieur. Quel qu'il soit, la Chine de votre enfance fut en effet celle des seigneurs de la guerre, mais il y a en vous une telle générosité d'accueil, comme de dons, l'un et l'autre allant de pair, que toute découverte vous est bonheur. Seriez-vous aussi, monsieur, un incessant voyageur qui, depuis des années, parcourt le monde et communique avec lui au travers de ses œuvres? Il faut que devant vous s'ouvrent tous les chemins de la connaissance et du rêve. Monsieur, vous avez recherché l'inaccessible en vous appuyant sur votre poésie et la couleur. Notre joie la plus intense est de vous porter sur cette crête où se rejoignent la pente du connu que l'on gravit pas à pas et celle attirante et glissante de l'inconnu qui vous donne le vertige. Si comme artiste et comme ami, vous êtes un magicien, vous êtes aussi un perfectionniste de la beauté. Votre culte de l'expression magique ne se nourrit de la jouissance esthétique des expressions naturelles. Cette perpétuelle remise en question du monde, cette volonté de créer le beau, d'en extraire un art vivant, plein d'énergie, où la matière s'enflamme, afin de retrouver le silence, puis d'exprimer la force des espaces volcaniques par une explosion toujours plus créatrice. La lumière s'évade du cadre, comme dans ce magnifique triptyque dédié à notre cher ami Jean-Paul Riopel, qui vient de nous quitter. Ce jaillissement de lumière pourrait exprimer le sacré où repose son âme pour l'éternité. Ce poème où les transparences du ciel nous montrent où le beau émerge du sacré, et la beauté exige maintenant que son propre culte soit célébré par vous, qui êtes le vaticinateur de la comédie humaine. Peut-on penser que depuis César, l'art moderne ne cherche plus une levée de refoulement? A contrario, vous nous montrez qu'il est nécessaire de produire des équivalents explosifs de l'espace inconscient. Vous déréalisez réalité plus qu'elle ne réalise le fantasme. Le choc créé par la rencontre de l'art occidental avec les arts des autres civilisations nous ouvre l'esprit et nous fait douter du réalisme. Vous êtes le magicien de l'art, tandis que le spectateur en demeure l'esthète éclairé. Dans ton insolente palette de vibrations, tu nous entraînes, excusez-moi, j'ai fait une entorse au protocole. Tu nous entraînes, tu nous fais jaillir à l'extérieur de nous-mêmes. Tu nous distrais dans toute la force originale du mot. Tes couleurs nous aspirent, elles nous séparent de nous. Elles nous font entrer dans un monde où la joie et l'illusion du mieux vivre sont toujours présentes. Est-ce le passé, la pensée de vous qui? Je n'en déciderai pas. Mais le très grand succès de l'exposition du Jeu de Paume, œuvre de l'architecte Daniel Abadie, s'est manifesté de tout cœur à la curiosité artistique du plus grand nombre. À partir d'une expérience du rien, elle pose la question de l'être sur la voie des vibrations personnelles, sur ton art, dont tu es le prestidigitateur. Et maintenant, bien que je fasse ici cette entorse dont je viens de parler au protocole de cette maison en te tutoyant, l'Académie tout entière t'accueille. Mais pour l'instant, sous prétexte de décrire à toi-même, il importe que j'essaie de te révéler à tous nos auditeurs, puisque comme tu le dis, je n'ai jamais su parler de ma peinture, je n'y tiens pas non plus, je ne cherche pas à l'expliquer. Ce qui compte, c'est uniquement le tableau.
Chers confrères, je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Arnaud Dautrive.
Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, monsieur le maire, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis. Notre confrère et ami Zhao Wuqi m'a fait l'amitié de me demander de lui prêter ma voix pour la lecture du discours qu'il a préparé en hommage au regretté Jean Carzou. J'accepte bien volontiers de lui rendre ce service et je parlerai désormais en son nom. Avant toute chose, je tiens à remercier Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur Arnaud d'Autrive, qui a bien voulu me prêter sa voix pour la lecture de ce discours. Ce lieu est si prestigieux et si impressionnant que mon émotion risque de l'emporter sur la maîtrise de la langue française, d'autant qu'il m'arrive parfois, comme vous le savez, d'en oublier la complexité des genres. Vous devinez aussi bien combien je suis ému à l'écoute de mon vieil ami Roger Taillibert, que je remercie également de tout cœur. Enfin, j'exprime toute ma gratitude à mes nouveaux confrères qui m'ouvrent aujourd'hui les portes de cette noble institution qu'est l'Académie des Beaux-Arts. C'est un immense honneur pour moi de prendre place dans ce fauteuil que David, le premier, puis Horace Vernet, Alexandre Cabanel, Jean-Jacques Henner, Jean Bouchot et enfin Jean Carzou ont occupé. Nos styles et nos techniques diffèrent autant que les contextes artistiques qui les ont vus naître. Chacun de nous a défendu son art et son métier. Peindre est cette même passion qui nous unit. Cette cérémonie est d'une haute portée symbolique. Je souhaiterais rappeler qu'André Malraux, en 1964, il y a 40 ans, m'a permis d'obtenir la nationalité française et m'a fait don, par la même occasion, de ce patrimoine culturel auquel j'appartiens désormais. En m'installant aujourd'hui dans ce fauteuil, vous saluez son intuition, je vous en remercie. Permettez-moi également de rappeler que le général de Gaulle reconnut la République populaire de Chine la même année. C'est un honneur pour moi de saluer aussi sa mémoire. À mon tour maintenant de rendre hommage à l'Académie des Beaux-Arts et à mon prédécesseur, le peintre Jean Carzou. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer sans toutefois avoir fait partie de ses amis intimes. L'œuvre m'est familière et nos vies ont de réelles affinités que je vais évoquer. Jean Carzou est né Garnik Zouloumian à Alep en 1907. Ses parents étaient partis d'Arménie pour s'éloigner de leur famille qui désapprouvait leur union. Il n'a que 12 ans lorsque son père décède. Il quitte alors la Syrie avec sa mère et sa sœur pour s'installer en Égypte. Ce déchirement et la précarité dans laquelle vit toute la famille ne l'empêchent pas de faire d'excellentes études au lycée français du Caire. Il commence là à tisser un lien avec la France qui n'a jamais été interrompue. Il en fut de même pour moi dans la concession française de Shanghai lorsque je poussais la porte de la petite librairie où j'achetais les revues d'art reproduisant les œuvres de Picasso et de Matisse. Notre fascination pour la France fut immédiate et fondatrice de notre création. En 1924, Jean Carzou obtient une bourse de recommandation arménienne pour venir étudier à Paris à l'École spéciale d'architecture. Il y excelle alors que la peinture le séduit déjà. Arrivant à Paris, 22 années plus tard, je devais, comme on dit en Chine, me dorer pendant 2 ans, c'est-à-dire parfaire mes connaissances et ma pratique de la peinture occidentale, puis repartir dans mon pays. Pour Jean Carzou, pour moi-même, la première visite a été pour les salles de peinture du Louvre. Il se précipite devant les toiles de Watteau, le Lorrain et surtout Ingres. Il aimait raconter que ce dernier lui donna l'ambition de devenir peintre. Je voulais, quant à moi, tout voir. J'ai découvert les primitifs italiens et en particulier la Maestà de Cimabue. Je sais qu'en dépit des 20 années qui nous ont séparés, notre émotion fut la même. Avidité de connaître, émerveillement de se confronter aux œuvres dont nous avions rêvé, bonheur d'être là, présent, au cœur de l'histoire de la peinture. En 1929, alors qu'il est diplômé d'architecture, Jean Carzou fait le choix de se consacrer exclusivement à la peinture. Il entre à l'Académie de la Grande Chaumière, mais décide rapidement de se passer de professeur. Il construit déjà son univers. À mon arrivée à Paris en 1948, j'ai fréquenté cette même académie pour y parfaire la formation que j'avais déjà reçue pendant 6 ans à l'école des Beaux-Arts de Hangzhou. À l'opposé de Jean Carzou, j'acceptais l'enseignement d'autres professeurs. Ma peinture, de ce fait, a été plus longtemps sous l'influence. Et il m'a fallu du temps pour me libérer, pour m'affirmer et trouver ma voie. Paul Klee, puis Henri Matisse m'y ont aidé. À cette époque, Jean Carzou vit d'illustrations pour de nombreux journaux, et plus particulièrement de caricatures politiques, brocardant au passage Hitler, alors peu connu en France. La même année, il expose pour la première fois au Salon des Indépendants. Son atelier de la rue des Plantes, dans le 14e arrondissement, devient un véritable laboratoire artistique. Il cherche et expérimente. Il se désigne comme un peintre artisan et, fidèle à cette définition, il affichera toute sa vie un certain mépris pour l'intellectualisation de l'art. Pour lui, c'est détourner la peinture de ses véritables buts et jusqu'à la camoufler. Nous sommes tous deux enfants de Montparnasse. La rue du Moulin Vert, où j'ai été pendant 17 ans le voisin d'Alberto Giacometti, est à 2 enjambées de la rue des Plantes. J'habite toujours ce même quartier. L'atelier de Jean Carzou est boulevard Raspail, où son fils le conserve. Ce périmètre est notre pays, et Paris pourrait se réduire pour nous deux à ces quelques rues. Il m'est agréable de penser que nous avons fréquenté les mêmes cafés, profité de la même lumière pour nos tableaux et surtout vécu de ce même sentiment de liberté que la France nous a permis d'éprouver. Nos amis nous ont tenu lieu de famille. Jean Carzou et moi-même sommes des solitaires de la peinture. Dans l'isolement de cet atelier du 14e arrondissement, Jean Carzou s'engage dans plusieurs directions présentes en ce début du XXe siècle. Il passe de la figuration simple au collage, approche le surréalisme et s'intéresse à l'abstraction géométrique. Ce ne sont finalement que les multiples facettes d'une même personnalité, celle d'un artiste en devenir. Puis la peinture figurative s'impose finalement à lui. Mais toutes ces recherches de jeunesse laisseront une empreinte définitive dans son travail qui va désormais associer la rigueur géométrique de sa formation d'architecte à la dimension onirique et poétique de son univers pictural. C'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale que s'affirme sa carrière de peintre. Il obtient son premier succès public en 1939 dans une galerie rue de Seine, à quelques pas d'ici. Bien que Jean Carzou continue d'exposer pendant les années sombres, sa vie est perturbée. La guerre l'oblige à faire plusieurs séjours en Bourgogne. Il vit à la campagne et découvre les outils agricoles. Ces machines et ustensiles de métal, faits de dents, de pics et de crocs, sont une révélation et constituent un formidable réservoir pour son imaginaire. Ces objets perçus comme monstrueux deviennent les acteurs sanglants de la représentation d'une guerre larvée et silencieuse qui n'en finit plus. Il parvient ainsi à exprimer toute l'horreur d'un conflit où les machines prennent pour la première fois le pas sur l'être humain pour les broyer et les anéantir. Sa capacité à inventer prend appui sur cette réalité. Dans ses paysages transparaissent la peur et l'angoisse sans qu'il n'y fasse jamais figurer une seule goutte de sang. Les machines règnent sur ce monde effroyablement silencieux, témoins immobiles, étonnamment expressifs de la vacance humaine et de sa folie destructrice. Une forme d'humanité brisée éclate en un foisonnement baroque et coloré. Il crée des paysages, ports, jardins et villes abandonnées, des espaces qui entraînent le spectateur à s'affranchir de ce réel. Ils lui permettent de rejoindre un monde onirique où l'homme retrouve sa place. De ce nouveau seuil, tout redevient possible. Roger Caillois, qui fut aussi mon ami, rapporte le dialogue qu'il eut avec Jean Carzou à propos du merveilleux. Il me semble que le merveilleux, c'est tout l'inconnu qui nous entoure et qu'il est impossible d'atteindre. Pour moi, c'est l'exactitude dont font preuve les astres, l'ordre de la nature et, à contrario, les phénomènes inexpliqués. La flamme, les cristaux avec leurs dessins et leurs couleurs extraordinaires. C'est un domaine immense, sans bornes. Et Roger Caillois a ajouté, dans ce domaine illimité, il a découvert quelques chemins qu'il aime et qu'il connaît bien. Il semble que les principales caractéristiques de Carzou puissent se résumer ainsi. Un profond intérêt, tant spirituel qu'esthétique, pour les inventions humaines, sur le plan des machines faites pour construire ou détruire. Monde d'acier terrible et docile où la réalité, le symbole et le cauchemar se rejoignent. On dit en Chine d'une peinture réussie qu'elle est magique. Cette affirmation aurait plu à Jean Carzou qui voulait, selon ses propres mots, extraire la magie qui existe en toute chose. Jean Carzou refusait les fondements théoriques, préférait suivre une attirance instinctive et presque mystique pour la lumière et le rêve. La réalité est riche et pour moi, disait-il, toute chose paraît baignée dans une lumière extraterrestre. C'est ce mélange de rêve et de réalité qui me poursuit. Chez lui, la fascination pour ces univers rêvés ne s'est pas développée sur un refus de la réalité, mais à partir d'une vision tout à fait précise du réel. Peindre le réel peut devenir l'obsession des peintres. Mais l'imitation n'est pas la solution. J'ai été un peintre figuratif et je sais, pour m'être confronté à ce problème, qu'il ne s'agit pas de représenter le réel, mais de le peindre autrement, d'inventer une autre manière de le voir et de le donner à voir, selon la belle expression de Paul Éluard. Jean Carzou, même s'il s'est attaché à la représentation objective et réaliste de notre monde, a fait de même en nourrissant ses créations d'un message qui les dépasse. L'immédiate après-guerre est une période d'intense production et d'échanges fructueux. Ces expositions, tant en France qu'aux États-Unis, connaissent un véritable succès. Ses œuvres sont plébiscitées par le public, comme sa promenade des deux amants lors du référendum du Salon des peintres témoins de leur temps en 1953. C'est là une invitation à l'amour qui permet de comprendre toute l'influence heureuse que Watteau a exercée sur lui. Rappelons ici les récompenses et distinctions officielles qui ont jalonné cette période. Il remporte trois fois le prestigieux prix Hallmark entre 1949 et 1955, reçoit le Grand Prix de l'Île-de-France en 1954 et le Grand Prix Europe de la première biennale de Bruges en 1958. Il est nommé officier de la Légion d'honneur en 1956 et de l'Ordre des Arts et Lettres en 1958. Ses honneurs et succès ne le détournent pas de son projet initial. Ses années sont marquées par un travail intense avec le monde du théâtre. Il réalise en 1952 les décors et costumes désormais célèbres de l'acte des Incas, des Indes galantes de Rameau pour l'Opéra de Paris. Cette première collaboration est un grand succès et l'année suivante, Roland Petit lui commande les décors du ballet Le Loup. Il crée ensuite les décors et les costumes de Gisèle pour l'opéra, ainsi que ceux d'Athalie pour la Comédie française en 1955. Ses réalisations sont un réel triomphe. Après ces quatre réalisations, il décline toute autre proposition de décor pendant 10 ans pour se consacrer à la peinture de chevalet et ne pas être considéré comme un peintre décorateur. Ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'il renoue avec la scène pour After Eden, des ballets Harkness, Jeanne d'Arc et ses juges de Molnier et la Péricole d'Offenbach. En 1953, Roland Petit me demanda de concevoir pour les ballets de Paris le décor de La Perle, ballet en un acte sur un argument de Louise de Villemorin. La vie parfois fait mal les choses. Nous aurions dû nous rencontrer à cette occasion et mieux nous connaître. Son univers pictural devient par la suite plus serein. Il abandonne les couleurs violentes pour un bleu froid. Son trait se dépouille, devient incisif au profit d'un dessin très construit. Il cherche à recréer une perfection qui, selon lui, trouve ses racines dans la grande tradition de l'art français. Cette conception de la perfection s'exprime par un travail sur la ligne, l'élaboration de perspectives appuyées et la richesse de l'ornementation graphique. L'exposition Apocalypse à la Galerie David et Garnier en 1957 donne une dimension nouvelle à son œuvre. Jean Carzou a passé 3 années à la préparer. Il se fait témoin de son temps en retenant les éléments de la modernité. Chemin de fer, caténaire, cheminée d'usine, raffinerie, avion, fusée, il dissèque son époque et érige ses éléments en autant de preuves des errances et des ravages de la société. Les années 60 et 70 confirment, s'il en était besoin, sa célébrité. Des expositions se succèdent dans le monde entier, Bruxelles, Paris, Nice, où a lieu la première rétrospective de son œuvre, Genève, Cologne, Erevan, Tokyo et bien d'autres. En créateur protéiforme, il explore de nouvelles pistes et illustre de lithographie nombre d'ouvrages aussi bien classiques, de la Terre à la Lune de Jules Verne, Hamlet de Shakespeare, que contemporain, la Lune hérissée de Jacques Audiberti, France d'André Mauroy ou l'adieu aux armes d'Émigoué. Il réalise également des cartons pour la Manufacture nationale des Gobelins et des panneaux peints pour le paquebot France. Les distinctions se succèdent. Nomination au grade de commandeur de l'Ordre national du Mérite en 1977 et élection au sein de cette académie en décembre de la même année au fauteuil de Jean Bouchot. Il est officiellement reçu le 4 avril 1979 sous cette coupole et prononce un discours qui fait sensation. Jean Carzou savait, lorsque cela lui semblait nécessaire, affirmer et défendre ses idées. Il a exposé dans ce discours une vision apocalyptique de l'avenir au travers de ses réflexions sur la peinture. il a pointé d'un doigt accusateur Cézanne et Picasso. Il les a rendus directement responsables d'une libération de la peinture qu'il considérait trop grande, à tel point qu'il risquait en quelque sorte de s'autodétruire. Pour ce peintre artisan, les avant-gardes développées autour des années 50 sont trop éloignées de cette grande tradition française à laquelle il était si attaché. Qu'il me soit permis aujourd'hui de lui répondre, moi qui ai perçu l'œuvre de Picasso différemment, si Picasso a levé le poids des traditions, c'est pour mieux les prolonger, ouvrant ainsi des voies difficiles, mais ô combien fécondes. Picasso a d'abord été celui qui a devancé les autres et d'une certaine manière réinventé l'histoire de la peinture par l'invention du cubisme avec Georges Braque. Lorsque Picasso dit « Il ne s'agit pas d'imiter la nature, mais de travailler comme elle », il s'inscrit dans la conception artistique la plus classique, qui fut celle de cette assemblée dès sa création. Cela aurait dû rassurer Jean Carzou sur la démarche iconoclaste de Picasso. De la même manière, la culture chinoise qui m'a été transmise considère que la création picturale est un processus similaire à celui de la création de l'univers, l'une et l'autre s'exerçant parallèlement. Cette révolution des signes, conduite par le cubisme, me semble avoir été nécessaire, non pour détruire l'art, mais pour bouleverser le regard que nous portons sur le réel. Il fallait sans doute cette audace incroyable de Picasso pour y parvenir. Après de 80 ans, Jean Carzou entame en 1985 son chantier le plus monumental, la décoration de la chapelle de la Visitation de Notre-Dame à Manosque. Il crée sur plus de 600 mètres carrés un cycle consacré à l'aventure humaine. Il revient sur un thème qui lui est cher depuis des années et offre, dans la tradition des grands maîtres, une interprétation contemporaine de l'Apocalypse. Évocation macabre des holocaustes et des tyrannies du siècle se succèdent. Il donne libre cours à sa peur d'un monde surindustrialisé, d'une civilisation machiniste où les cavaliers de l'Apocalypse sont des avions supersoniques, monstrueux annonciateurs d'un monde en dérive. Au sein même de ce chaos, apparaît la figure rédemptrice de la Vierge, vêtue de soleil et couronnée de 12 étoiles. Promesse d'espoir, le cycle se poursuit sur la représentation de l'espèce humaine aimante et d'un monde nouveau, épuré et serein, dans lequel l'homme retrouve le rôle d'un créateur positif. Dans une démarche solitaire et atypique, il oscilla toujours entre une vision poétique du monde quotidien et l'évocation d'un univers allant au-delà des apparences. L'Académie, pour Jean Carzou, était le lieu où se trouvait réuni tout ce qui fait la tradition française, l'excellence de cette tradition séculaire, un modèle coffre-fort. Elle est pour moi un lieu d'échange, de rencontre et d'enrichissement, parachevant sans cesse cet héritage. Qu'un peintre abstrait succède à un peintre figuratif illustre bien cette diversité artistique. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela. Imaginé par Lebrun pour contribuer à la défense et à l'illustration de la qualité et du savoir-faire français, l'Académie, à travers son histoire, a maintes fois accueilli en son sein des créateurs d'origine étrangère. C'est aussi cette richesse qui lui a permis d'accomplir sa vocation. En intégrant votre assemblée, chers confrères et amis, je suis aujourd'hui les traces de Chu Teshun et de François Cheng de l'Académie française. Pour nous, cette reconnaissance constitue le véritable symbole de notre appartenance à la culture française. Jean Carzou ne voulait pas être assimilé à un peintre arménien séjournant en France. Il était français d'origine arménienne, comme je suis français d'origine chinoise. La décision de s'installer dans un autre pays n'est pas un déni de son origine. La France, comme l'a souligné récemment mon ami François Cheng, est, par bonheur, un pays au caractère universel. Parler une autre langue, adopter une autre culture, y compris dans la manière de peindre, ne se fait pas uniquement sur la base d'un refoulement ou d'une rupture, mais au contraire, par un besoin d'apport différent pour mener à bien un projet créateur. La France et son extraordinaire capacité à tendre les bras aux autres cultures m'ont permis de quitter mon pays sans le renier. Henri Michaux, grâce à cet élan vers l'esprit oriental qui a marqué son œuvre, m'a aidé à me sentir chinois. J'ai confié un jour à mon ami Claude Roy que c'est Cézanne qui m'a appris à me trouver moi-même, à regarder la nature, à me retrouver peintre chinois. Les vibrations des touches colorées de ces montagnes Sainte-Victoire ont bouleversé la conception de l'espace. Je pris conscience que cet espace est traversé de souffles vitaux, comme dans la grande peinture chinoise des Song. Je devais bien le reconnaître, malgré mon désir, alors très fort, d'échapper à l'emprise de cette tradition. Nous, les peintres, sommes tous unis, non par la similitude des styles ou de la pensée, mais peut-être par un unique trait de pinceau qui relie les hommes et leur permet de croire en un rapport harmonieux avec le monde. Je retrouve Jean Carzou dans cette veine poétique, sans laquelle nous n'aurions jamais osé rendre le beau possible. Nous cherchons parfois, nous détruisons pour mieux créer. Je voudrais, pour clore ce propos, citer mon ami Jean-Paul Riopel. Ce qui compte, ce n'est pas de faire un beau tableau, mais de faire progresser quelque chose. Progresser, c'est détruire ce qu'on croyait acquis. Le vrai tableau, c'est celui qui est un commencement. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'intégralité de la retransmission de l'installation de Zhao Wuqi au sein de l'Académie des Beaux-Arts dans la section peinture, une cérémonie qui s'est déroulée le 26 novembre 2003. L'académicien avait été élu quelques mois auparavant, le 4 décembre 2002.